Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans la JT du local. Nous sommes aujourd'hui le lundi 30 janvier et je suis ravie de vous accueillir dans cette émission autour de l'actualité en Mayenne. Si c'est la première fois que vous écoutez l'autre radio, en effet, ou même si vous êtes un habitué de cette émission, en tout cas, eh bien vous savez déjà que nous allons parler de deux sujets qui vont nous permettre d'avoir effectivement deux sons, deux invités, et puis une chronique plutôt en fin d'émission. Et au menu eh bien, de ce lundi, on va parler de ces projet égalité filles-garçons mené dans le lycée du Douanier Rousseau à Laval, avec notamment toute une semaine de sensibilisation qui s'achève ce soir. Vous verrez pourquoi c'est important et à quel point les élèves sont impliqués dans ce projet justement. Vous entendrez aussi un témoignage précieux, celui de Lily Léniel, qui a été déportée à l'âge de 11 ans et donc survivante des camps nazis en Allemagne. Elle est venue témoigner ce week-end en Mayenne auprès de lycéens, mais aussi auprès du grand public pour ce qu'elle estime être sa mission maintenant, et elle témoigne toujours et encore avec un sourire aussi dans la voix que vous entendrez tout à l'heure dans l'interview. Et puis en fin d'émission, on va entendre la chronique de la Ligue des droits de l'homme en Mayenne qui nous propose ce lundi une chronique sur la loi immigration. Avec ce projet de loi discuté en Conseil des ministres ce mercredi, donc pile dans l'actualité. Et on va voir pourquoi l'association, comme d'autres d'ailleurs, s'oppose à ce projet de loi avec Alain Vignier. Donc ça, ce sera plutôt en fin d'émission. Mais d'abord, on va commencer par un point sur l'actualité avec ces 9 nuits de régulation des urgences à Laval dès ce soir, mais aussi les 6, 10, 14, 15, 17, 19 et 21 et 22 février, avant de vous déplacer aux urgences du centre hospitalier Lavallois. Entre 18h30 et 8h30 du matin, il faudra appeler le 15 ou le 116-117, encore à cause d'un manque de médecins urgentistes sur place. Deux accidents mortels ce week-end dans le sud Mayenne. Le premier a eu lieu samedi soir vers 23h à Saint-Brice sur la route départementale 28 dans le sens Château-Gontier-Sablé-sur-Sarthe. Une voiture s'est retrouvée sur le toit et son conducteur, un homme âgé de 27 ans, est décédé. Le deuxième accident, lui, s'est produit à Fromentières sur la Nationale 162. C'était hier vers 6h du matin au lieu dit La Raquette. Une voiture seule est impliquée et son conducteur, âgé de 21 ans, est également décédé. Trois témoins choqués ont dû être pris en charge par les secours. Dans le Nord Mayenne, un incendie lui a causé 4 morts ce week-end à Tran, au lieu dit La Heusière. C'était samedi en fin de journée. Une famille composée d'un couple et de 4 enfants, âgés de 2, 3, 4 et 13 ans, se trouvaient à l'intérieur de cette maison. L'homme âgé de 42 ans a réussi à être extrait de la maison en feu. C'est aussi le cas de l'enfant âgé de 2 ans. L'homme a été héliporté en état d'urgence absolue, mais l'enfant âgé de 2 ans a été pris en charge sans que son pronostic vital n'ait été engagé. Et malheureusement, 4 corps sans vie ont été découverts à l'intérieur de la maison. Selon les premières investigations, l'incendie pourrait être d'origine accidentelle. Un nouvel appel à manifester contre la réforme des retraites demain, à l'appel donc de appel lancé par l'intersyndicale à Laval, avec un rassemblement prévu cette fois à 11h Square de Boston pour, je cite, « faire comprendre au gouvernement que la majorité des Français et des Françaises rejettent cette réforme ». Les organisateurs espèrent rassembler autant que lors de la première manifestation le 19 janvier dernier, où près de 8000 personnes avaient manifesté dans le cortège lavallois. Et puis retour sur ce week-end de sportif en Mayenne avec un carton plein pour l'Étoile Lavalloise Futsal qui n'a fait qu'une bougée de Kingersheim samedi en s'imposant 8-0 face à la lanterne rouge du championnat 2D1. Les Lavallois restent donc premiers et invaincus cette saison. Moins spectaculaire en revanche pour du football, le Stade Lavallois est parti de Caen samedi soir avec un nul 0 partout, mais pas si mal finalement pour un match largement dominé par les Canets. Liberté, égalité, filles, garçons, c'est le slogan de l'action menée depuis mardi dernier au lycée du Douanier Rousseau à Laval, autour de l'exposition des découvreuses anonymes. Une douzaine d'élèves volontaires proposent jusqu'à ce soir plusieurs ateliers autour des femmes et des sciences pour lutter contre les stéréotypes de genre. Une fresque des oubliés EES, un quiz, un coin lecture et même plusieurs jeux de société sur le sujet sont disponibles au foyer pour les élèves.
Je m'appelle Shona. Le jeu, c'est un quies féministe, donc avec uniquement des femmes qui ont fait principalement des choses importantes. Il y a juste une petite planche avec des questions à poser pour s'instruire sur ce que la femme a fait et surtout pour jouer. Quand on choisit le personnage, du coup, on a une petite carte avec toutes les informations sur le personnage, sur tout ce qu'elle a fait d'important, sur sa date de naissance, là d'où elle vient et les épisodes marquants de sa vie. Oui, il y en a plusieurs qu'on a découvert qu'on ne connaissait pas du tout. Temple Grandin, c'est une professeure en sciences animales et ambassadrice de l'autisme. Et Yvonne Brill, c'est une scientifique aérospatiale. Ça permet déjà de sensibiliser les gens au fait que les femmes sont importantes et ont quand même fait pas mal de choses. Puis ça permet aussi de juste découvrir des nouveaux visages et des nouvelles personnes dans le monde.
Je suis Baroche Lili en première année au lycée Donia Rousseau. Là, j'ai trois photos d'Einstein, dont une avec sa femme, les philosophes des Lumières, Galilée et puis la leçon d'anatomie. Et donc, je propose aux élèves qui viennent me voir de refaire ces photos, mais en version plus féminine. Donc, par exemple, si j'ai des garçons qui viennent me voir, je les habille en fonction que leurs habits ressemblent aux photos. Et puis, je leur mets des nœuds dans les cheveux, des barrettes, des écharpes roses, plein de trucs comme ça. Et si c'est des filles, au contraire, je les habille en tenue de garçon, entre guillemets. C'est pour mettre en valeur les femmes de la science, même si sur ces photos-là, elles ne sont pas présentes. C'est pour les représenter en général dans les sciences. Oui, j'ai découvert certaines femmes. Elle s'appelle Kalpana Chawla. C'est une astronaute qui a fait partie du projet Challenger en 2003, il me semble. Oui, j'en connaissais quelques-unes et pas toutes. Et je trouve ça dommage en fait qu'on les connaisse pas assez. Et donc ça m'intéressait d'en apprendre plus sur elles.
Je suis Nathalie Roth, j'enseigne les mathématiques au lycée Douanier-Rousseau. Et je m'occupe aussi de l'égalité filles-garçons avec mes autres collègues du lycée. Les livres du coin lecture ont été empruntés. Il y a des gens qui jouent au jeu sur les femmes scientifiques. Ils ont eu du monde, donc c'était l'occasion pour elles et eux d'échanger à chaque fois sur ce thème-là. Et c'était vraiment un de nos objectifs. Donc c'est un premier pas, en tout cas. L'idée, en tout cas, était effectivement de permettre, et je crois que c'est ce que les élèves voulaient, de faire quelque chose qui puisse faire avancer un petit peu les gens dans leur réflexion, voir les choses un peu autrement. Quand dans ma classe aussi, des élèves font des exposés et que je leur donne des thèmes sur des femmes scientifiques, par exemple, on en parle un petit peu après et je leur dis, ce nom-là, maintenant, essayez de le retenir et vous vous souviendrez. Et puis, donc on sème un peu des petites graines pour faire en sorte que cette culture, elle inclut aussi les femmes et que par conséquent, avec un peu plus de visibilité, peut-être aussi que nos élèves se projetteront aussi un petit peu mieux, en particulier dans les métiers de la science, mais pas seulement. Même dans le sport et dans tous ces domaines où parfois on voit un petit peu moins les femmes. C'est vrai que quand on regarde par exemple les journaux, la télévision, etc., c'est à peu près une femme pour trois hommes la représentation. Donc on a encore un petit peu de marge pour améliorer les choses et pour aboutir à l'égalité vraiment.
Et ce projet autour des stéréotypes filles-garçons devrait être reconduit l'an prochain pour parler, pourquoi pas, des femmes dans l'art, dans l'histoire ou encore dans le sport. Le lycée envisage même une possible labellisation égalité filles-garçons au mois de septembre 2023. Vous allez entendre très bientôt un témoignage précieux et rare, celui de Lili Léniel qui est revenue des camps nazis de Ravensbrück et de Bergen-Belsen durant la Seconde Guerre mondiale. Témoignage à entendre juste après avoir écouté Dangerous de The XCX.
Say we're in danger, but I disagree. If proven wrong, shame on me. But you've had faith in me, so I won't shy away. Should it all fall down, your love be my favorite mistake. They say
take this away? Should it all fall down? I'll treasure each day. They say you are dangerous, but I don't care. I'm going to pretend. I couldn't.
C'était Dangerous the XCX dans l'AJT du local. Vous êtes toujours à l'écoute de l'autre radio sur le 101.7 à Laval et le 107.9 à Château-Gontier. Et tout de suite, un témoignage précieux dans cette émission. À bientôt 91 ans, elle témoigne toujours debout pour être digne, selon ses mots. Lili Léniel a été déportée à 11 ans et est survivante des camps nazis de Ravensbrück et de Bergen-Belsen. Elle était à Laval ce vendredi et samedi, invitée par le Mémorial des déportés de la Mayenne, pour témoigner devant plus de 300 lycéens vendredi et près de 250 personnes ce samedi au lycée agricole de Laval. Entre-temps, nous avons eu la chance d'échanger avec cette femme d'une impressionnante détermination, toujours coquette avec son rouge à lèvres et surtout convaincue de l'importance de témoigner inlassablement.
Je m'appelle donc Lili Léniel, mon nom d'épouse, mais Keller Rosenberg, mon nom de jeune fille, le nom sous lequel j'ai été déportée. Je témoigne à l'infini et je me rends compte que partout les jeunes sont intéressés, sont décidés à devenir, comme je le dis, mes petits messagers. Vous savez qu'en ce moment, c'est tous les jours que j'interviens, je dis... Je fais mon petit tour de France, tant que je suis sollicitée partout. Et c'est pour moi un peu fatigant, bien entendu, étant donné mon âge. Mais combien captivant, vous savez, ces jeunes sont exceptionnels. Moi, ça me plaît. J'ai une mission à remplir et je ne faillirai pas. J'habite dans le Nord, à Lille, et je suis venue avec grande conviction dans votre région. Et je raconte mon histoire aux élèves, c'est dans leur programme d'histoire, mais entendre une personne qui a vécu cette période leur apporte un petit plus. Et je leur dis, la famille entière a été arrêtée le 27 octobre 1943 déjà. Et c'était le jour anniversaire de maman. Vous voyez, nous nous étions préparés, les petits-enfants. J'ai deux frères plus jeunes que moi. Robert avait 9 ans et demi seulement, et 3 ans et demi, le petit André. Et donc, avec mes parents, nous avons été arrêtés ce 27 octobre 43, jour anniversaire de maman. Les enfants, nous nous étions préparés, fait de beaux dessins. Papa va acheter gâteaux et fleurs. Le lendemain allait être un grand jour. Et quelle ironie du sort, vous voyez, c'est cette nuit-là que la Feldgendarmerie est arrivée chez nous avec fracas. Nous ont emmenés à la prison de Loos, qui se trouvait tout près de Lille à l'époque. Nous n'y sommes restés que peu de jours. D'ailleurs, nous, les enfants, nous ne nous rendions pas compte, moi-même, je me demandais, mais pour quelle raison avions-nous été arrêtés en prison? Vous savez, nous étions des petits enfants sages, obéissants, je ne comprenais pas encore pour quelle raison. Et puis ensuite, on nous a menés dans une autre prison en Belgique, la prison Saint-Gilles à Bruxelles. Les déportés du Nord et du Pas-de-Calais sont pratiquement tous passés par la Belgique parce que le commandement militaire allemand était basé à Bruxelles. Là, nous ne sommes restés également que très peu de temps, puis on nous a tous rassemblés dans un grand camp qu'on appelle justement le camp de rassemblement de Malines. Malines en Belgique est l'équivalent de Drancy en France. Et là, bien entendu, il y avait des SS allemands, bien sûr, mais également des SS flamands. Nous y sommes restés jusqu'au 13 décembre 1943 et ensuite nous ne sommes même pas rendus compte que nous avons été séparés de papa. Vous savez, c'était l'affolement dans les gares, les cris, les pleurs, les chiens les nazis qui hurlaient. Vous savez, c'était l'affolement total. Il y avait des wagons à bestiaux, on nous y a poussés à l'intérieur. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que papa n'était pas avec nous. Ce n'est que bien plus tard que j'ai appris qu'il a été emmené au camp pour hommes, toujours en Allemagne. Ce camp, c'est Buchenwald. Tandis que nous, maman et les trois petits-enfants, nous avons atterri à Ravensbrück, camp de femmes au nord de l'Allemagne. Nous y sommes restés longuement, plus de 14 mois, souffrant terriblement de la faim. Tous les déportés l'ont dit au retour, souffrant également du froid intense, nous n'avions absolument rien pour nous protéger. Mais souffrant, nous, les petits-enfants, d'une peur continue. Vous savez, pendant 2 années, nous n'avons vécu que comme des ombres, n'osant nous montrer. Dans les allées du camp se promenaient constamment ces SS, toujours accompagnés de leurs chiens terrifiants. Ces chiens étaient dressés pour attaquer les déportés. Je vous assure que nous en avions une peur bleue. Moi, je dis que c'est maman. Pourtant, dans la journée, elle partait à l'arbeit, au travail, comme tous les autres déportés, mais nous attendions impatiemment le soir son retour. C'est elle qui nous donnait cette force de tenir. Toute la journée, nous restions enfermés dans nos blocs. C'était terrible, vous savez. Tant nous avions peur. Et le soir, lorsqu'elle rentrait, nous commencions à respirer, à reprendre vie. Ah, c'était elle. Je dis, c'est grâce à sa présence, bien entendu. Et puis maman était petite, mince, menue, mais avec une force mentale exceptionnelle. Je pense en avoir un peu hérité maintenant. C'est ce qui fait que nous avons tenu et puis que maintenant, beaucoup de déportés, vous savez, n'ont pas pu en parler à leur retour. Et ça peut se comprendre également, c'est un sujet très dur. Mais d'autres, quelques-uns trop peu nombreux, ont pu se faire. C'est mon cas et c'est important. Vous savez, un élève un jour m'a dit « Madame, jusqu'à quel âge vous avez l'intention de témoigner ?» Ainsi, et je lui ai dit « Au moins jusque 100 ans, après on verra. » Donc vous voyez, ma mission n'est pas achevée.
Cette importance de témoigner que tout le monde ne peut pas ou n'a pas pu le faire, quand vous êtes revenu, est-ce que justement vous vous êtes senti tout de suite le droit de le faire peut-être? Ou est-ce que ça a pris du temps aussi comme d'autres?
Eh bien, vous savez que après Ravensbrück, nous avons été menés, maman, les trois enfants, dans le terrible camp qu'on appelait le camp de la mort lente, c'est Bergen-Belsen. D'ailleurs, à Bergen-Belsen, il y avait Madame Simone Veil et il y avait aussi les sœurs Frank, Anne Frank et sa sœur qui malheureusement sont décédées dans le camp. Elles ont été contactées par le typhus qui régnait. Et donc, en rentrant, nous avons été libérés par les Anglais le 15 avril 1945. Mais maman avait contracté le typhus. Elle fut donc emmenée à l'hôpital. Et nous, les trois enfants, sommes rentrés seuls en France. Vous savez, c'était un moment un peu tragique pour nous. Nous étions contents. Bien sûr que j'étais heureuse d'être libre et d'être enfin en France, mais en même temps, nous étions si seuls. Nous avons atterri à l'hôtel Lutetia à Paris, comme la plupart des déportés, mais nous ne savions où aller. Il n'y avait personne pour nous accueillir. J'avais le cœur gros de voir tous ces déportés emmenés par leur famille, choyés. C'était des moments exceptionnels de tendresse. Ces familles emmenaient leurs déportés chez elles. Mais nous, personne n'était venu pour nous. Je dis, c'était un moment important, bien sûr, et triste en même temps. Et puis la Croix-Rouge française nous a placés dans un préventorium à Hendaye et nous y étions bien forcément. L'on nous donnait à manger à notre faim, l'on nous soignait, mais nous nous sentions toujours bien trop seuls. Et figurez-vous qu'un jour, la porte de notre chambre s'est ouverte et maman était devant nous d'une maigreur terrifiante. Elle ne pesait même plus 27 kilos, mais elle était là, la vie reprenait un sens. Puis nous sommes revenus dans le nord, avons retrouvé la maison 100% pillée, il n'y avait plus rien chez nous. Ce sont les voisins exceptionnels qui ont apporté l'un un matelas, l'autre une table, des chaises. C'est ainsi que petit à petit nous avons refait surface. Et comme vous le demandiez, vous savez, au début, nous les déportés, nous ne parlions pas. Nous étions traumatisés par ces deux années de souffrance. Et même, ce qui est pire, c'est que si l'on s'y risquait de temps en temps d'en parler, les gens semblaient mettre en doute ce que l'on racontait. Ça nous vexait au plus haut point, l'on se taisait. Mais en ce qui me concerne, plus tard, avec l'apparition des négationnistes, là j'ai commencé à témoigner. J'ai dit « je ne peux pas laisser dire n'importe quoi ». Pourtant, je vous assure, j'étais timide à l'époque, mais il me fallait rencontrer des élèves. Et c'est ainsi que, petit à petit, j'ai refait surface. Ce n'était pas si facile que cela de toujours témoigner, toujours se rappeler ce passé que l'on ne peut oublier. Mais on voudrait faire une petite pause. À l'heure actuelle, ce n'est plus possible. Malheureusement, la plupart des déportés sont déjà décédés. Le peu qui reste ne peut pas toujours se déplacer. Ils sont encore plus âgés que moi, qui ne suis plus toute jeune. Vous avez une idée de mon âge, n'est-ce pas? En 43, j'avais 11 ans, donc je vais avoir 91 ans cette année. Et vous voyez, sans fin, je remplirai ma mission.
Pour justement parler pour ceux qui ne peuvent plus le faire ou pour qui c'est plus difficile.
Exactement. Il faut parler pour ceux qui ne peuvent pas le faire et aussi, surtout, pour ceux qui ne sont pas rentrés des camps. Ceux qui sont morts dans les camps, nous avons promis d'en parler sans fin pour que plus jamais de telles horreurs ne puissent se reproduire. Et les petits messagers, mes petits élèves le comprennent fort bien. Je vous assure qu'ils promettent qu'à leur tour, ils ne laisseront pas passer les mensonges, les horreurs que l'on peut profaner. Et donc, ils sont décidés à faire que... Je leur dis, mais les enfants, moi, à mon âge, je ne connaîtrai pas la paix, bien entendu. Mais vous, vous êtes capables de l'obtenir. Pour cela, il faut que vous combattiez le racisme et l'antisémitisme qui malheureusement perdurent, la xénophobie, la haine de l'étranger. Et ces enfants, je leur dis, vous êtes forts, les enfants. Vos différences sont des richesses. Parce que parfois, je témoigne dans des endroits où les jeunes sont très, très mélangés. Et je leur dis toujours, les enfants, que l'on soit noir ou blanc, que l'on soit juif, catholique ou musulman, nous sommes avant tout des êtres humains. Nous devons tous nous entendre, tous nous accepter avec nos différences. Et les élèves le comprennent, promettent qu'ils veilleront. Ça me fait le plus grand plaisir. J'ai confiance, j'ai foi en ces jeunes qui sont mes petits messagers, comme je leur dis.
On voit qu'effectivement, vous avez toujours la foi en ce message, et heureusement, parce que comme vous le disiez, ça ne s'est pas arrêté, la xénophobie, malheureusement, le racisme, etc. Et même aujourd'hui, ça prend une autre forme aussi, cette xénophobie.
C'est certain. Vous savez, ça m'attriste de voir ce qui se passe aujourd'hui. Comme je vous le disais, les déportés, nous disions plus jamais cela. Et vous voyez, l'être humain n'est pas raisonnable. Il y a la guerre partout. C'est horrible ce qui se passe en Russie, en Ukraine et partout dans le monde. Donc, les adultes, les êtres humains n'ont rien compris. Mais j'ai cette foi dans les jeunes. Grâce à eux, il n'y aura plus de guerre. C'est ce que je leur souhaite, un monde de paix que moi, bien entendu, à mon âge, je ne connaîtrai plus. Mais pour eux, je le veux absolument. Vous savez, je vais témoigner également en Allemagne, en Belgique, et je me rends compte que partout, les jeunes ont cet idéal de paix et que grâce à eux, vous savez, c'est une force exceptionnelle, tous ces jeunes d'Europe et pourquoi pas du monde. C'est une force exceptionnelle. Ils sont capables d'éviter la guerre. Ils le comprennent, ils promettent et moi, j'ai confiance, j'ai foi en eux. Un jour viendra où ils auront la paix. C'est ce que je leur souhaite de tout mon cœur.
Et le message est toujours reçu à 100% auprès de ces jeunes ?
À 100%. Écoutez, les enseignants parfois me disent « ces jeunes sont bruyants, n'adhèrent pas toujours ». D'ailleurs, vous savez, je reçois des milliers de lettres d'élèves et parfois certains disent « ah, j'avais horreur des cours d'histoire ». Mais maintenant que je vous entends, dès que vous avez commencé à parler, j'étais scotché à vos lèvres. Vous voyez, c'est magnifique ce qu'ils disent, ces jeunes. Et voilà, je suis persuadée qu'à leur tour, ils feront comme tous les jeunes de toute l'Europe, c'est une force exceptionnelle, ils feront qu'il n'y ait plus de guerre, ils ne laisseront plus passer ces horreurs, ces mensonges. Et voilà, et la paix viendra un jour. Qu'y a-t-il de plus beau qu'un monde de paix ?
That I could say I never forget a face. The truth is, since I met you, my mind's been low on space. I walk through my apartment, barely recognize the place. When I go to write the rent check, I forget my landlord's name. If everybody in the world is standing in a line, and I could talk to anyone, wouldn't waste nobody.
Out of billions of people, we cut it down to two.
On vient d'écouter Adam Melkor, I Choose You, dans l'AJT du local sur les ondes de l'autre radio, bien sûr. Et si vous souhaitez réécouter ce fort témoignage de Lily Léniel, vous pouvez bien sûr, comme chaque interview et chaque émission en entier, vous rendre sur notre site l'autreradio.fr. Vous allez dans les podcasts de l'AJT du local, le nom de cette émission, à la date du jour, eh bien vous pourrez retrouver et réentendre cette interview de Lily Léniel, entre autres. On va passer à la chronique de ce lundi avec, on en a parlé au début d'émission, le projet de réforme des retraites qui attire tous les projecteurs. Et pourtant, dès mercredi, un autre texte important sera discuté en Conseil des ministres, un nouveau projet de loi autour de l'immigration auquel est opposée la Ligue des droits de l'homme et d'autres associations. Et l'antenne mayonnaise de la Ligue des droits de l'homme, justement, va nous expliquer pourquoi. Bonjour Alain Vignier.
Bonjour Marie.
La section mayonnaise de la Ligue des droits de l'homme fait partie d'un collectif d'associations qui a entrepris la tournée des parlementaires de la Mayenne au sujet de la nouvelle loi immigration intitulée « Pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration » qui va être présentée mercredi prochain au Conseil des ministres avant de passer au Parlement. Alors pourquoi cette démarche ?
Notre précédente chronique a déjà traité de ce projet de loi dont la nécessité et la pertinence sont pour le moins problématiques. Un mot d'abord sur le collectif dénommé Collectif d'entraide et d'innovation sociale de la Mayenne, Colédis 53. Il s'est constitué en 2014 pour revendiquer et obtenir l'ouverture d'une halte de nuit à Laval pour les sans-abri. Son ADN, c'est l'accueil, l'accompagnement et la défense des droits des personnes en situation de précarité. Au fil des années et des dossiers dont il a été amené à s'emparer, il s'est élargi à plus de 20 associations ayant pignon sur rue, engagées dans l'hébergement d'urgence et l'accès au logement, la lutte contre le sida, l'éducation populaire, la scolarisation, la maîtrise du français, l'accompagnement en matière administrative et juridique. L'éventail des compétences et des sensibilités est donc très large. C'est son originalité et sa force qui ne vont pas évidemment sans des débats parfois intenses, toujours animé de la volonté partagée d'actions communes et coordonnées. Un tel rassemblement à niveau départemental est relativement exceptionnel. Il représente une belle plateforme pour la contribution de la société civile de la Mayenne à la vie de notre démocratie et à son effectivité.
Et c'est là où se situe son implication par rapport à cette nouvelle loi à immigration ?
Évidemment. Nous étions déjà intervenus auprès de nos parlementaires lors de la précédente loi, la loi Collomb, en 2018. Les parlementaires connaissent et reconnaissent la représentativité du collectif. Bien entendu également, le collectif, au travers de ses associations, est confronté au quotidien aux réalités de la vie des étrangers présents parmi nous et qui ne se voient pas reconnaître le respect de leurs droits les plus fondamentaux, ni accorder la régularisation de leur droit au séjour, quand bien même seraient-ils présents de longue date, avec des enfants scolarisés, avec des emplois hélas plus ou moins sporadiques, souvent au noir, par obligation, emploi dont nombre d'employeurs en panne de main-d'œuvre réclament à corps et à cri la consolidation par l'attribution de titres de séjour. C'est de cela que les associations, à partir des situations concrètes, entendent témoigner auprès de chacun de nos 5 députés et sénateurs au moment où va s'ouvrir un énième débat parlementaire qui est bien parti pour n'avoir pour seul effet, comme les précédents, que d'entretenir dans l'opinion une hantise fantasmée de l'immigration au mépris total de ses réalités humaines, de son importance effective et des valeurs qui fondent notre pacte politique et sociale. Les associations témoigneront également de parcours de réussite de tant d'étrangers régularisés et de leurs familles. Régularisation doit cesser d'être un gros mot.
Au-delà de la présentation donc de ces témoignages, quelle est alors l'attente des associations vis-à-vis des parlementaires ?
L'attente est double, mais je tiens à dire en premier lieu que nos parlementaires connaissent déjà beaucoup de ces situations, car dans leur permanence, ils sont fréquemment saisis d'un certain nombre de demandes de soutien à l'attribution de titres de séjour. Donc cette attente est double. D'abord, légiférer, c'est le boulot du parlementaire. L'urgence aujourd'hui est de sortir par la loi de l'arbitraire et du caractère ubuesque du traitement des demandes d'admission exceptionnelle au séjour des étrangers non reconnus réfugiés de la part des préfets et de leurs administrations. Cela a pour conséquence d'emboliser les juridictions administratives, saturées de demandes de recours. La représentation nationale dispose dans un rapport sénatorial tout récent de mai 2022 d'une description sans conception de la situation et elle est affligeante. Elle dispose également, la représentation parlementaire, du rapport très complet et documenté d'une commission d'enquête transpartisane de l'Assemblée nationale de novembre 2021, soit 3 ans après la loi Collomb, et je ne résiste pas au plaisir de citer le titre complet de ce rapport, car il dit toute l'étendue du problème. Ce titre est « Sur les migrations, les déplacements de population et les conditions de vie et d'accès aux droits des migrants, réfugiés et apatrides, en regard des engagements nationaux, européens et internationaux de la France ». C'est un véritable réquisitoire, ce rapport, qui laisse pantois. Deuxième rôle des parlementaires, après le rôle de légiférer, parler vrai à l'opinion, en refusant d'aborder la question migratoire sur le terrain de la peur, en refusant la logique uniquement répressive, malgré quelques nuances ou apparences, de cette nouvelle mouture de loi qui ne fait que radoter et qui perpétuera la fabrication de sans-papiers contraints pour survivre à l'aide des humanitaires, à la clandestinité, aux expédients quand ce n'est pas à la délinquance et aux pires difficultés pour aimer la France. Je l'ajoute volontiers. Nous méritons tous mieux que ça.
Merci beaucoup Alain Vignet et l'antenne mayonnaise de la Ligue des droits de l'homme pour cette chronique. Chronique qu'on peut là aussi réécouter en podcast sur l'autreradio.fr et surtout qu'on retrouve dans cette émission un lundi sur deux, donc la prochaine, évidemment, sans surprise, ce sera dans 15 jours. Puisque oui, ça y est, c'est la fin de notre émission L'Agité du Local pour ce lundi. Évidemment, restez à l'écoute de l'autre radio, puisqu'à 19h, il y aura Solénoïde. Ce sera suivi à 20h de la discothèque de Valentin. Et nous, on revient demain, toujours à 12h15, bien sûr. Je vous souhaite une très belle journée.